commentaire, Socrate, maître et contre-maître, une émission proposée par Raphaël Antoven. Si les débats étaient vraiment une affaire de raison, un échange d'arguments, il serait moins rare de voir un individu admettre qu'il se trompe. Mais en général, dans un débat, comme on dit, les participants se contentent d'attendre poliment, à tour de rôle, que l'autre ait fini de parler, pour dire ce qu'ils avaient prévu de dire dès avant que l'autre ait pris la parole. Le débat, ce lieu commun de la démocratie, n'est souvent qu'une addition de monologues, un exercice narcissique où chacun, comme dit Deleuze, fait le beau à tour de rôle, attendant avec anxiété le moment de récupérer le crachoir pour y caser sa bonne phrase. Ce phénomène de mauvaise foi démocratique est particulièrement frappant en politique, dont les acteurs incarnent toujours une opinion, une parcelle de vérité, représentent une corporation d'électeurs, donc un point de vue particulier sur le monde, mais tout en feignant, pour les besoins de la cause, de parler au nom de la raison. Mais que reste-t-il de la raison quand elle peut être brandie aussi bien par Alain Madelin que par Arlette Laguiller ? Le jeu de la politique gagnerait en consistance si, à la question de savoir ce qu'on dit, il substituait la question de savoir ce qui nous fait le dire. Si, au lieu de se réclamer de la raison, il examinait les raisons qui nous persuadent à tort d'être dans le vrai. S'il savait que dire à l'autre qu'il a raison en un mot, ça n'est jamais perdre la face. Mais ne vous y trompez pas. L'homme ou la femme politique ne veut pas avoir raison, il veut juste avoir raison de l'autre. La vérité, sa vérité, ne sert qu'à donner tort à l'adversaire. Le débat n'est qu'un combat, et la raison elle-même, déraisonnable en cela, n'est jamais qu'une opinion qui se prend pour parole d'évangile. À ce compte-là, comme le dit Nietzsche dans le texte que vous allez entendre, ce qui a besoin d'être démontré ne vaut pas grand-chose. La figure de Socrate est au cœur de cette ambivalence essentielle, car le Silène philosophe est tantôt le maître glorieux qui force à penser par soi-même en détruisant les préjugés, tantôt le contre-maître sournois, le sorcier, l'indispensable gourou qui flatte ce que nous avons de plus servile et remplace un dogme par un autre. Avait-il, demande Nicolas Grimaldi, inventé sa vérité comme un moyen pour nous aveugler et nous empêcher de voir l'horrible vérité ? Ou la vérité était-elle son unique fin et n'avait-il d'autre but que de la découvrir ? Bref, Socrate est-il un maître qui nous apprend la maîtrise de soi ou un esclave qui se cherche en définitive un maître à dominer ? Telle est la question que Commentaire se posera aujourd'hui à partir du dialogue de Platon intitulé Le Gorgias et en compagnie de Nicolas Grimaldi, philosophe et auteur de Socrate le sorcier, publié aux Presses universitaires de France, pour la deuxième et dernière partie d'un long entretien consacré au père de la philosophie tel qu'on l'enseigne un peu partout.
Avec Socrate, le goût grec s'altère en faveur de la dialectique. Que se passe-t-il exactement ? Avant tout, c'est un goût distingué qui est vaincu. Avec la dialectique, le peuple arrive à avoir le dessus. Avant Socrate, on écartait dans la bonne société les manières dialectiques. On les tenait pour de mauvaises manières. Elles étaient compromettantes. On en détournait la jeunesse. Aussi se méfiait-on de tous ceux qui présentent leur raison de telle manière. Les choses honnêtes, comme les honnêtes gens, ne servent pas ainsi leurs principes avec les mains. Il est d'ailleurs indécent de se servir de ses cinq doigts. Ce qui a besoin d'être démontré pour être cru ne vaut pas grand-chose. Partout où l'autorité est encore de bon ton, partout où l'on ne raisonne pas, mais où l'on commande, le dialecticien est une sorte de polichinelle. On se rit de lui, on ne le prend pas au sérieux. Socrate fut le polichinelle qui se fit prendre au sérieux. Qu'arriva-t-il là au juste ?
Vous parlez dans votre livre Socrate le sorcier, Nicolas Grimaldi, vous dites que le premier des logiciens, que l'inventeur de la dialectique, ait pratiqué la philosophie comme une sorcellerie, c'est ce qu'il nous faut tenter de comprendre. Et vous pointez chez Socrate une sorte de connivence entre le rationnel et l'irrationnel. En somme, le père de la dialectique, le père de la raison, celui de l'argumentation, l'homme le plus rigoureux qui soit, le débatteur, le rhéteur le plus précis, le sophiste, si j'ose dire, le plus conséquent et le plus sérieux qui soit, l'homme de raison, bref, est également un homme d'esprit, mais d'esprit au pluriel. C'est-à-dire, c'est aussi un chaman, c'est aussi un sorcier, c'est aussi quelqu'un qui parle du démon, de son propre démon. Alors, comment cette connivence s'effectue-t-elle ? Comment est-ce qu'on en vient de l'exercice le plus strict et le plus rigoureux de la raison à une philosophie qui relève presque de la pensée magique ?
Oui, vous situez bien le problème. C'est que, alors d'une part, c'est vrai, il y a tout cet appareil anthropologique ou ethnographique sur le rôle du daimon.
Donc du démon de Socrate, le fameux démon.
Lorsque vous évoquez l'homme le plus rigoureux, et cependant inspiré par son démon, vous diriez la même chose de Descartes, qui dans un songe reçoit la révélation de la mathématique universelle et de la nouvelle science. Mais à la différence de Descartes, dont le rationalisme n'est peut-être pas aussi rigoureux ni qu'on le dit, à la différence de Descartes, Socrate ne présente pas sa doctrine comme un système de la vérité, mais comme une croyance. Et il ne cesse de le dire. C'est ce que j'ai supposé. C'est un beau risque. Et alors, l'accumulation des références, c'est la belle espérance, la magnifique espérance, le bel espoir, etc., etc.
Donc
c'est...
Socrate est le père de tous les prophètes de l'espérance.
Tout à fait. Tout à fait.
C'est vraiment le premier chrétien, de ce point de vue.
Il est vrai que les premiers penseurs chrétiens ont emprunté le langage platonicien pour exprimer, codifier, conceptualiser leur foi. Et à cet égard, c'est ce qui fait que lorsqu'on lit les textes platoniciens, ils ont l'air d'anticiper, par exemple, lorsque Socrate parle de ces sortes de paris, ou bien il y a quelque chose après la mort, et par conséquent, ça vaut la peine de s'y consacrer, ou bien il n'y a rien, et de toute façon, nous n'aurons rien perdu, les termes sont presque identiques à ceux du pari pascalien, du moins la logique qui est identique à celle du pari pascalien.
Soit on gagne tout, soit il n'y a rien à gagner, on ne perd rien non plus.
Car la seule chose qu'on aurait perdu, c'est les quelques plaisirs qu'on aurait pu poursuivre. Or, le propre du plaisir, c'est qu'on le poursuit toujours, et, dit-il, qu'on ne l'obtient jamais, puisque au zénith du plaisir, au moment de la transe, c'est la mélancolie qui suit la volupté. Le plaisir se détruit lui-même, comme le phénix.
En même temps, si le caractère du plaisir, et là on fait un petit détour pas très platonicien, mais enfin si le caractère du plaisir est de ne pas durer, il y a une sagesse du plaisir à laquelle pour le coup Platon est tout à fait étranger, qui serait presque une sagesse bergsonienne, une sagesse de l'instant, une infinie sagesse qui consisterait à être et savoir au même moment pour un instant fugace, qui consisterait à vivre et à penser ce qu'on vit au même moment. Ce que je veux dire, c'est que, on parlait de faire l'amour tout à l'heure, mais le moment de l'orgasme est... Donc, précédé des préliminaires et suivi d'une douce lassitude, etc., etc. Mais le moment en lui-même, précisément, ne dure pas. Il n'a de consistance matérielle là que parce qu'il est encadré par les préliminaires et la cigarette qui vient après, si vous voulez. Donc, cet instant même du plaisir. Hein.
Ce que vous caractérisez ainsi, c'est qu'il y a, et certainement dans toute philosophie, un certain nombre d'a priori affectifs qui sont jamais remis en question. Dans le cas de la pensée platonicienne, dans le cas du Socrate que nous connaissons à travers les divers témoignages, et principalement à travers Platon et Xénophon, le sacre de l'instant est quelque chose qui n'est jamais pris en considération. Comme si ce qui peut cesser peut décevoir. Et par conséquent, ce qui ne durera pas toujours ne doit pas être désiré. Il y a comme une sorte de panique, a priori, comme dirais-je, une sorte de complexe de l'abandon. Hein? Il faut surtout ne pas posséder ce qu'on pourrait perdre.
Trouille du provisoire. Hein.
C'est ça. Le transitoire est l'horrible. À quoi bon la coupe s'il y a l'amertume au fond du verre? Il ne faut aimer que ce dont on sera toujours aimé, que ce qu'on pourra toujours aimer.
Hein? En fait, entre le platonisme de Socrate et un authentique pessimisme, il n'y a de différence que celle qu'il y a entre un homme qui espère et un homme qui a espéré et s'est trouvé déçu.
Tout à fait.
Ce n'est pas sans noblesse, Calliclès, que tu as exposé ton point de vue. Tu as parlé franchement. Toi, en effet, tu viens de dire clairement ce que les autres pensent et ne veulent pas dire. Je te demande donc de ne céder à rien, en aucun cas. Comme cela, le genre de vie qu'on doit avoir paraîtra tout à fait évident. Alors explique-moi, tu dis que si l'on veut vivre tel qu'on est, il ne faut pas réprimer ses passions, aussi grandes soient-elles, mais se tenir prêt à les assouvir par tous les moyens. Est-ce bien en cela que la vertu consiste ?
Oui, je l'affirme, c'est cela la vertu.
Il est donc inexact de dire que les hommes qui n'ont besoin de rien sont heureux.
Oui, parce que si c'était le cas, les pierres et même les cadavres seraient tout à fait heureux.
Mais tout de même, la vie dont tu parles, c'est une vie terrible. En fait, je ne serais pas étonné si Euripide avait dit la vérité. Je cite le vers. Qui sait si vivre n'est pas mourir et si mourir n'est pas vivre? Tu sais, en réalité, nous sommes morts. Je l'ai déjà entendu dire par des hommes qui s'y connaissent. Ils soutiennent qu'à présent, nous sommes morts, que notre corps est notre tombeau, et qu'il existe un lieu dans l'âme, là où sont nos passions, un lieu ainsi fait qu'il se laisse influencer et balloter d'un côté et de l'autre. Eh bien, ce lieu de l'âme, un homme subtil, sicilien ou italien, je crois, qui exprime la chose sous forme d'un mythe, en a modifié le nom. Étant donné que ce lieu de l'âme dépend de ce qui peut sembler vrai et persuadé, il l'a appelé passoire. Par ailleurs, des êtres irréfléchis, il affirme qu'ils n'ont pas été initiés. En effet, chez les hommes qui ne réfléchissent pas, il dit que ce lieu de l'âme, siège des passions, est comme une passoire percée, parce qu'il ne peut rien contrôler ni rien retenir. Il exprime ainsi l'impossibilité que ce lieu soit jamais rempli.
Pour vous livrer le fond de ce que je pense à cet égard, c'est que... Et Calliclès ne s'y est pas trompé.
Calliclès, c'est l'interlocuteur de Socrate dans le Gorgias.
C'est ça, qui est un jeune homme brillant, qui mène la politique athénienne, et qui pense que la philosophie sont des jeux d'enfants qui ne mènent à rien, qui sont divertissants, qui sont des exercices de l'esprit, mais qui sont indignes d'un homme mûr, qui se doit à ses concitoyens, à la vie de la cité. Et lorsque Socrate nous promet la plénitude absolue dans la contemplation de l'éternité, Calliclès lui dit, mais le bonheur que tu nous promets, c'est le bonheur des pierres et des morts, ce qui laisse rien attendre. Tant ce que Socrate veut conjurer, c'est précisément, je vais le dire en patois, ce qu'il veut conjurer, c'est l'inquiétude de la médiation indéfinie. Tendre sans cesse vers quelque chose qu'on ne maintiendra jamais, ce qu'il confessera dans ce mythe de la création de l'âme dans le Chimée. Vivre d'un échec indéfiniment continué, ça lui paraît l'enfer. Ce à quoi il aspire, c'est en quelque sorte au sein maternel.
Et la plénitude.
Voilà, c'est l'immédiation. Or, à juste titre, Calliclès lui répond, mais l'immédiation absolue, la fin de toute inquiétude, de toute angoisse, de toute tension, de tout élan, etc., etc., de toute temporalité, c'est la fin de la vie. Car le propre de la vie est d'être cette tension qui n'est jamais résolue.
Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, vous parlez de Calliclès. Parlons de Calliclès. Donc, Calliclès est l'interlocuteur du Gorgias, enfin l'un des interlocuteurs du Gorgias, puisqu'il y a Polos également, Gorgias et Calliclès. Mais enfin, Calliclès est celui qui clôt le dialogue, enfin qui en fait la moitié.
Qui claque la porte.
Et qui claque la porte. Et Calliclès est celui qui dit donc à Socrate que la philosophie, ce sont des enfantillages. C'est pas très sérieux, ces machins qui nous envoient ailleurs que dans la vie pour nous proposer une éternité, alors qu'ici-bas, on ne peut pas y prétendre et que précisément, quand on est un peu sérieux, on passe pas sa vie à faire de la philosophie, justement, mais on passe sa vie à vivre. Donc, il oppose effectivement cette figure-là. Calliclès est aussi celui que l'instantanéité du plaisir n'effraie pas, n'est-ce pas ? Alors que Socrate, lui, ne se résout pas à un plaisir qui ne dure pas, en somme. Ils débattent à un moment tous les deux de la question de savoir s'il vaut mieux subir l'injustice ou la commettre. Et Socrate dit... Quand les faibles s'unissent pour triompher du tyran, ils sont plus forts que le tyran. Calliclès dit « Non, le tyran demeure le plus fort même si on triomphe de lui. Car une coalition de faibles, de ressentiments ou de victimes peut fabriquer un pouvoir supérieur au tyran. Mais en force, les faibles demeurent les faibles et le fort demeure le fort. » Ce que je veux dire ici, c'est que la conversation Socrate-Calliclès, c'est la conversation Nietzsche-Platon.
C'est juste.
Sur la question de la faiblesse et de la force.
Les dérèglements qu'il avoue et l'anarchie dans les instincts ne sont pas les seuls indices de la décadence chez Socrate. C'en est un indice aussi que la superfétation du logique et cette méchanceté de rachitique qui le distingue. N'oublions pas non plus ces hallucinations de Louis qui, sous le nom de démon de Socrate, ont reçu une interprétation religieuse. Tout en lui est exagéré, bouffon, caricatural. Tout est en même temps plein de cachettes, d'arrière-pensées, de souterrains. je tâche de comprendre de quelle idiosyncrasie a pu naître cette équation socratique « raison égale vertu égale bonheur », cette équation la plus bizarre qu'il y ait, et qui a contre elle en particulier tous les instincts des anciens Hélènes.
Cette confrontation, c'est la confrontation du fait au droit. Calliclès, c'est la voix de la nature. Dans la nature, le plus fort l'emporte sur le faible. Et si c'est pas le plus fort physiquement, le plus rusé l'emportera sur le plus fort physiquement. Donc la loi de la nature, la loi de la vie, c'est que le plus fort triomphe. Or le triomphe, c'est celui en qui la vie exulte. Et à cette loi de la nature, Socrate semble opposer une sorte de loi du surnaturel. C'est-à-dire la loi du droit, en quelque sorte la loi de l'esprit, au sens où l'esprit, de manière qui anticipe Hegel, dans la manière où l'esprit, c'est ce qui nie la nature dans l'homme. Dans la mesure où je me conforme à la naturalité qui est en moi, je cherche à l'emporter sur les autres. Dans la mesure où je vis selon l'humanité qui est en moi, j'essaie de refouler ou de répudier la naturalité qui est en moi, et par conséquent, de résilier ce désir de l'emporter sur les autres. La seule chose que je puisse espérer d'eux, ce n'est pas les dominer, mais obtenir le consentement de leur raison. C'est-à-dire nous unir dans l'identité de ce qui nous fait l'un et l'autre, et tous ensemble, des hommes.
Oui, mais pourtant, Socrate passe son temps à dominer ses interlocuteurs en usant de la raison, en usant de la dialectique. Il passe son temps à expliquer que ce soit Ménon, Alcibiade, Agathon. Il passe son temps à remettre ses interlocuteurs à leur place, précisément, et à les rappeler ce qu'ils sont. Je veux dire, cette phrase de Nietzsche qui ferait hurler toute personne bien pensante, qui est « il faut toujours protéger le fort contre le faible », est une phrase qui tient au fait que le faible, ou la coalition des faibles, est beaucoup plus forte que le fort, en un sens, et que le fort, c'est-à-dire la nature généreuse, c'est-à-dire dans l'esprit de Nietzsche, l'aristocrate athénien, est souvent humilié par le faible qui, lui, se sert de la dialectique de la raison pour l'écraser. Ce que Socrate appelle dialogue ou maïeutique, Nietzsche en fait un combat. Et c'est très frappant, d'ailleurs, dans le rapport entre Socrate et Calliclès, non ?
Non, il est vrai que le dialogue socratique n'est qu'à peine un dialogue, il n'est qu'un dialogue par la rhétorique, parce que Socrate parle, dit, n'est-ce pas ? Certainement,
Sfodrage. C'est tout à fait comme tu dis, l'assentiment est nécessaire.
Alors, la fin, rien que la fin, est-elle pénible, oui ou non ?
Elle est pénible, oui.
Et c'est pareil pour la soif ?
Oui, tout à fait.
Bon, dois-je poser encore plus de questions ou es-tu d'accord pour dire que tout besoin, que tout désir sont des états pénibles ?
Je suis d'accord avec cela, ce n'est pas la peine de m'interroger.
Soit. Donc, si on boit quand on a soif, c'est agréable. Qu'en dis-tu ?
Oui, c'est agréable de boire quand on a soif.
Tout de même, dans ce que tu viens de dire, avoir soif signifie qu'on éprouve quelque chose de pénible.
Oui.
Mais si on boit, on comble le besoin de boire, et c'est un plaisir.
Oui.
Alors, quand tu dis qu'on boit, tu dis qu'on jouit d'un plaisir.
Parfaitement.
Quand on a soif, bien sûr.
Oui, en effet.
Et donc, quand on ressent une souffrance.
Oui.
Te rends-tu bien compte de ce qui arrive ? Voici, on jouit en même temps qu'on souffre, c'est ce que tu dis, puisqu'on boit quand on a soif. Sinon, c'est qu'il n'est pas vrai que ces deux états se produisent simultanément, au même lieu et au même moment, que ce soit dans l'âme ou dans le corps, comme tu veux, car à mon sens, cela ne fait aucune différence. Est-ce vrai, oui ou non ?
C'est vrai.
Pourtant, c'est bien toi qui disais qu'il était impossible d'être en même temps et heureux et malheureux.
Oui, en effet, c'est ce que je dis.
Mais malgré cela, tu es d'accord pour dire qu'il est possible d'éprouver à la fois la souffrance et la jouissance.
Oui, il semble.
Donc prendre du plaisir, ce n'est pas être heureux, pas plus qu'être malheureux, c'est ressentir de la peine. En conséquence, voilà qui semble que l'agréable est différent du bien.
Je ne sais pas quel tour de sophiste tu es en train de faire, Socrate.
Tu le sais très bien, mais tu fais l'imbécile, Calliclès. Bon, avançons encore un peu.
Alors il y a un premier argument socratique qui consiste à opposer à Calliclès même le tyran, celui qui fait ce qu'il veut, enfin plutôt celui qui peut tout ce qu'il veut n'obtient jamais ce qu'il désire. Précisément, parce que plus il fait trembler le monde, plus il tremble lui-même, et à mesure qu'il conquiert d'objets, de territoires, de royaumes, à mesure il est en mesure d'en désirer davantage, ce qui fait que son désir s'exaspère à mesure qu'il se satisfait. Donc il est toujours insatisfait. Donc première réponse, ce n'est pas du côté de la nature que nous devons espérer aucune satisfaction. Deuxième réponse, c'est dans cette domination que Socrate exercerait sur ses protagonistes. Et en effet, à cet égard...
Qui est le reproche que lui fait Nietzsche dans le problème de Socrate, dans le crépuscule des idoles.
À cet égard, l'emporter sur les autres, et en effet, les mots qu'emploie Alcibiade dans le banquet sont intéressants. Tu as pris possession de moi, tu m'as captivé, tu m'as envoûté, je ne m'appartiens plus.
Alors que c'est, pardonnez-moi, celui à qui il reproche de l'avoir envoûté et à qui il dit « à cause de toi, je ne m'appartiens plus » est celui qui lui inflige ce traitement précisément parce qu'il tient Alcibiade pour posséder et qu'il veut le faire accoucher de lui-même.
C'est vrai, c'est ça. Mais là, il me semble, voilà, la différence entre Socrate et le sophiste, alors que les moyens sont les mêmes. L'un et l'autre ne se servent que du langage, et du langage, comme vous le dites, pour dominer. Mais alors que le sophiste en attend un intérêt personnel...
Lucratif.
Socrate semble en attendre aucun intérêt. Peut-être, Nietzsche pourrait-il dire, si, son image en retire un grand intérêt. Mais du moins, n'aurait-il tiré aucun intérêt matériel. Et à cet égard, la mort de Socrate prend une sorte d'effet pédagogique ou même rhétorique. La preuve suprême de ce que je crois, ce que je vous dis, ou même de ce que je n'attends rien, c'est que je ne me dérobe pas à la mort, même la plus injuste qui soit. Lorsque Créton viendra dans mon cachot pour me proposer de fuir en Macédoine,
Non.
Si injuste que soit le jugement qui était rendu, je ne vais pas soustraire le juste d'Athènes à la justice des lois. Donc, il me semble que entre les deux, il y a cette option métaphysique. L'un dit, il faut dominer les autres pour retirer de cette vie tout ce qu'elle peut avoir de meilleur. Et l'autre lui dit, cette vie n'a rien de bon. Il n'y a rien à en attendre. Par conséquent, je n'essaie pas de dominer les autres, ou si je les domine, ce n'est pas dans mon intérêt.
Et ça, c'est tout le paradoxe de Socrate, qui, à la fois, se décrit lui-même d'ailleurs comme une torpille, un temps, un moustique, quelqu'un qui vous empêche de dormir, là, quelqu'un qui vous empêche de dormir, quelqu'un qui vous empêche de vous endormir sur vos certitudes, à la façon dont il dit à Ménon, bah alors dis-moi ce que c'est que la vertu, et puis alors Ménon essaie de lui dire, et Socrate lui dit, non mais tu me décris le vertueux mais pas la vertu, idem pour le courage, tu me parles du courageux et pas du courage, etc., etc., donc... Il empêche les gens de s'endormir sur la tranquille certitude qu'ils ont de savoir. Donc, de ce point de vue, il les rappelle à eux-mêmes en leur disant « Faites usage de votre raison au lieu de vous endormir sur l'héritage. Commettez le parricide de vous servir de la raison pour ne pas vous contenter de ce que vos pères vous ont appris. » Donc, de ce point de vue, c'est l'éducateur en chef. C'est le maître, c'est celui qui, effectivement, fait accoucher les gens d'eux-mêmes. Mais en même temps, le Socrate, torpille, moustique, tend, donc celui qui empêche de dormir, c'est le même homme qui, cette fois-ci, sert de sédatif. C'est le même homme qui enseigne, un, ce qu'il y a après la mort, en le décrivant. C'est le même homme qui dit, voilà ce qu'est la vérité. De temps en temps, on a un Socrate qui ne sait rien. De temps en temps, on a un Socrate qui sait tout. Il y a deux catégories de Socrate chez Platon. Il y a celui qui ne sait jamais, qui sait qu'il ne sait rien. Et puis, il y a celui qui sait la vie après la mort, comment ça se passe, la cité idéale, le bien, la justice, la vertu, etc. Donc, il y a vraiment deux Socrates. Donc, il y a à la fois la torpille... l'anguille, l'électricité, et de l'autre côté, le sédatif, celui qui propose un régime idéal, une société parfaite. Bref, d'un côté, il empêche de dormir, de l'autre, il fait rêver.
Vous avez tout dit. Vous avez caractérisé les paradoxes de Socrate. Dans le discours d'Alcibiade qui évoque le personnage...
Dans le banquet, donc
ce qu'a inventé Socrate, c'est la logique comme filtre. La logique dionysiaque. La logique comme sorcellerie.
Filtre pH.
pH, oui. Ah oui, vous avez raison, oui. Comme breuvage.
Breuvage.
C'est ça. Le paradoxe de Socrate, alors dans ce premier moment de Alcibiade dit, c'est un sorcier, il vous envoûte. Deuxième moment, et cet homme, vous ne pourrez pas le saisir car il est prodigieusement paradoxal. Il est toujours double. À la fois ceci et cela. Il unit tous les contraires. Il est à la fois laid et beau. L'extérieur, on le fuirait. Mais l'intérieur est fascinant.
Oui, c'est la fameuse métaphore du Silène, par laquelle Socrate se désigne lui-même.
Rappelez-vous la même métaphore lorsque, au début du mythe de la caverne,
donc au livre 7 de la République.
Au livre 7 de la République, il dit voilà, il faut
convertir
l'âme, la retourner, la mettre sans dessus dessous, pour qu'elle contemple les idées au lieu de regarder les choses terrestres, les phénomènes du monde en devenir. Et Gocon, voilà un projet, c'est pas aussi facile que de retourner une huître.
Vaste programme.
Oui. Car l'huître, le dehors de l'huître, c'est précisément rocailleux, couvert de d'algues, de vases, etc. Et c'est comme l'extérieur du silène, qui est laid, mal foutu, informe. Mais lorsqu'on la retourne à l'intérieur, c'est l'aurore nacrée de la lumière qui se lève. Le jour se lève à l'intérieur de l'huître. Et la lumière est à l'intérieur de Socrate. Socrate, il ignore tout, mais en fait il sait tout. Socrate est l'amant de tous les jeunes gens, il fait la cour à tous les mignons qu'il voit.
Mais il couche pas.
Et en même temps, il est insensible à leur charme.
Oui, d'où la fameuse exemple du Charmide. On lui propose, veux-tu qu'on le déshabille Socrate pour que tu vois comme il est beau? Et il dit, mais commençons par lui déshabiller l'âme.
Et à cet égard, si vous me permettez cet excursus, cette digression, lorsque Pascal parle du roseau pensant, il me semble qu'il dit exactement la même chose. Car si la philosophie a un sens, non pas le sens platonicien de pourvoir l'humanité d'aphrodisiaque ou d'analgésique, si la philosophie a un sens, c'est d'élucider les paradoxes infinis qui caractérisent la condition humaine, le fait de la conscience. Le roseau pensant, c'est la même chose que ce silène. En tant que roseau, il appartient à la nature, on peut le déraciner, le moindre vent peut l'arracher. Mais en tant que pensant, cette petite créature finie pense l'infinité de l'espace, l'infinité du temps, l'infinité des hommes. Donc, c'est le fini qui est habité par l'infini. En tant qu'il est pensant, il a l'exigence du devoir, de la justice, et par conséquent, comme dirait un autre philosophe, comme dirait par exemple Kant, eh bien, la nature peut m'anéantir à chaque instant, mais elle ne pourrait pas me contraindre au plus petit mensonge. Donc elle peut m'anéantir, mais non pas me contraindre. Et c'est ce qui fait l'expérience du sublime dynamique chez Kant.
Ce qui fait dire à Pascal qu'on a beau être mortel, au moins on le sait.
C'est ça.
Et ce qui fait notre misère est aussi ce qui fait notre grandeur.
Ce paradoxe que nous ne cessons de reconnaître, d'inventorier dans Socrate, c'est le fait même de l'humanité, et c'est ce fait même qui est l'objet de la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie étant de faire d'élucider ces paradoxes, au moins c'est possible.
L'adversaire en chef de Socrate, c'est le sophiste. C'est Thrasymaque, c'est Caliclès, c'est celui qui use du langage, non pas pour apprendre quelque chose, mais pour apprendre à parler de n'importe quoi, et qui par conséquent fait son deuil de l'idée de la vérité. Ce faisant, d'ailleurs, on peut tenir les sophistes pour les pères de la démocratie. Au sens où, du coup, chaque expression de l'opinion devient légitime puisque personne ne détient la vérité. Alors que dans les dialogues socratiques, il y a toujours un moment où Socrate coince son adversaire et lui dit, ah là, ce que tu as dit serait contradictoire avec ce que tu as dit plus tôt. Par conséquent, tu ne peux plus revenir sur tes propres mots et toutes les thèses ne se valent pas du point de vue de Socrate. Alors que pour le sophiste, toutes les thèses se valent. Mais en même temps, ce que vous me dites là fait de Socrate le plus grand des sophistes, le premier sophiste, dans la mesure où finalement, ce qu'il fait triompher, quand vous dites, il espère en l'au-delà, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne la connaît pas, la vérité. Oui. Ce que je veux dire, c'est que ce que fait triompher Socrate, c'est d'abord son opinion.
Oui, mais il me semble qu'il y a une différence. Entre la croyance, par exemple, des prisonniers de la caverne, qui croient que les ombres sont les réalités, et la croyance socratique, peut-être pourrait-on faire la même différence que faisait Alain entre la croyance et la foi. La croyance, en un premier sens, est comme une sorte de crédulité, elle s'ignore comme telle. Elle croit qu'elle énonce la réalité, que la réalité s'impose à elle. Je crois ce que je vois. Tandis que la deuxième croyance, celle de Socrate, celle qu'il nous propose, dont il aimerait nous persuader, dont il nous dit que quant à lui, il est persuadé. C'est une croyance qui se connaît comme croyance, qui sait que ce n'est pas une vérité, cette vérité ne s'en impose pas, nécessairement ni absolument. mais c'est ce que je veux croire. Il y a une différence entre l'involontaire, la crédulité, et le volontaire, la foi.
Oui, mais le fait de vouloir croire est une aussi une
si
façon...
Si improbable soit-il, c'est l'unique chance pour que la vie ait un sens, et je parie là-dessus. Et du même coup, en vivant conformément au sens de ce que je crois, sachant que ce n'est qu'une croyance, en vivant conformément à ce sens, je témoigne du sens que pourrait avoir la vie.
C'est la raison pour laquelle Socrate ne supporte pas quand son interlocuteur n'est pas d'accord avec lui. Calliclès l'exaspère.
C'est vrai.
Il demande toujours à son interlocuteur d'assentir.
Mais, enfin, c'est une question que j'aimerais vous poser, parce que je me la pose à moi-même. Dans cette dispute incessante qu'entretient Socrate avec les sophistes, je me demande si la principale cause de cet agacement, comme vous le dites si bien, n'est pas l'irritation que lui donne l'imposture. Le monde est fait d'imposture. Le général ne sait même pas ce que c'est que le courage. Le plus brillant élève du plus brillant des géomètres, Théétète, ne sait pas ce que c'est que la science. Gorgias, le plus brillant orateur, ne sait pas ce que c'est que la rhétorique, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Tous ces gens-là, qui se prévalent de leurs compétences, n'ont en fait aucune compétence. Au point que finalement, lorsque Gorgias se vante auprès de Socrate, disant, Socrate, figure-toi que quelque personne que ce soit, l'homme le plus intelligent, le plus lucide, s'il est malade, qu'on fasse comparaître à son chevet un de mes élèves, un sophiste, et un médecin, le plus compétent soit-il, laisse parler mon sophiste, je te parie que c'est lui qui enlève le morceau, et le malade préférera se confier aux mains du sophiste qu'à celui du médecin. L'incompétence gagne à tout coup. Eh bien, je me demande si ce n'est pas cette imposture, cette impudence, qui Socrate aussi bien contre les sophistes que contre la démocratie, au sens où la démocratie, c'est l'ensemble des sophistes au chevet du démos.
Du peuple, donc. En gros, est-ce que Socrate ne se fait pas une idée du savoir qui serait la suivante? Je ne peux pas être courageux sans savoir ce qu'est le courage. Je ne peux pas être vertueux sans savoir ce qu'est la vertu, alors que...
C'est juste.
Alors que... Nous savons tous d'expérience, mais c'est un mot que Socrate finalement n'aime pas tant que ça. Nous savons tous d'expérience qu'on peut être courageux sans donner une définition du courage. Et que même, c'est même la personne du courageux, comme le dira Aristote après Platon, qui en elle-même fournit la norme du courage par son activité, par son geste, par l'instant propice à l'intérieur duquel il accomplira le geste dont on pourra dire ensuite qu'il est courageux. Bref, est-ce que Socrate ne dénonce pas l'imposture dans la mesure où il voit l'imposture là où les gens ne savent pas, alors que... en somme, pour Socrate, le savoir doit précéder l'action, mais imaginons un instant que l'acte précède le savoir, que l'activité précède la puissance, que le geste précède la science de ce geste. Bref, qu'on soit chez Aristote, dans un monde non pas intelligible mais intelligent, à ce moment-là, est-ce qu'on n'a pas là une réponse à ce que Socrate désigne comme l'imposture? Après tout, Gorgias ou Calliclès, c'est peut-être un excellent gouvernant. Après tout, un médecin qui parle bien à son patient. Peut-être qu'il le persuade qu'il va mieux. Qui sait si ça marche pas? Vous voyez ce que je veux dire?
Je crois. Oui, oui, mais je voudrais soumettre à votre examen un texte très connu qui, dans le mythe d'Ère, à la fin de la République...
Donc au livre 10 de la République, c'est le mythe d'Ère, le pamphylien.
Alors les âmes qui, après la mort, les unes, ont passé 10 000 fois 10 000 ans à contempler les idées dans la plénitude de leur vérité. Les autres ont expié dans le Tartare par des supplices sans nom, etc., les vices, les injustices qu'elles avaient commises dans leur vie. Ouais. Finalement, elles sont rassemblées et un héros distribue les destins, les sorts. Et choisit le premier, un paysan, un modeste paysan qui avait mené une vie obscure, tranquille, inconnue, ne faisant de mal à personne. Et ayant la chance de choisir le premier, il voit une énorme tyrannie, se jette dessus. Ah, quelle chance, j'ai choisi le premier. Ensuite vient Agamemnon, le roi des Grecs, et Agamemnon choisit d'être aigle. Autrement dit, lui qui dominait tous les autres, il choisit de dominer une fois encore. Ajax, le combattant intrépide de l'Iliade, choisit d'être lion. Orphée, le chant, la aide, choisit d'être cygne. Donc, il recommence la même vie. Et Tersite, qui fait le singe tout au long de l'Iliade, choisit d'être singe. Le dernier à choisir est Ulysse. Et on lui propose une existence tout à fait obscure, tout à fait modeste, tout à fait paisible, de cultivateur à l'écart de tout le monde. Et si j'avais choisi le premier, je n'aurais pas choisi un autre. Ce qui nous laisse à présumer de ce que quelques-uns comme Périclès, Simon, Miciade ne furent justes que faute d'occasion d'être injustes, comme Ulysse ne fut un homme aventureux que faute d'avoir eu l'occasion de vivre tranquillement avec sa femme en fumant sa pipe. Alors, d'une part, chaque âme est une nature, chaque âme est à elle-même son propre destin, ce qui fait qu'elle se perpétue à travers les cycles des générations. Mais il n'y a pas simplement la cause divine, c'est comme les lois éternelles qui régissent le monde. Il y a aussi une causalité errante, celle qui s'ensuit de l'élément de l'autre, comme dans le Timée, qui perturbe tout, ce qui fait qu'il y a du hasard, ce qui fait qu'il y a des accidents, ce qui fait que les voyages n'arrivent pas toujours à bon port, c'est ce qu'a fait l'Odyssée. Et c'est ce qui fait que certains sont dévoyés de leur propre nature, et c'est ainsi que quelqu'un aurait été juste, et finalement aurait été commis quelqu'un juste, etc. Donc il me semble que lorsque on évoque l'homme d'action, par exemple l'homme courageux, qui révèle sa vertu dans l'acte, indépendamment d'aucune connaissance, il me semble que Socrate dira, il a été courageux par accident, car s'il fut courageux, c'est par ignorance du danger.
Vous croyez que Socrate, à petit dé, a été courageux par ignorance du danger?
Non. Et c'est pourquoi Alcibiade nous dit que c'est l'homme le plus courageux, parce que il est invincible dans la mêlée, indifférent au danger, au point de
risquer sa vie et de sauver la vie d'Alcibiade.
Pour sauver celle d'Alcibiade. Indifférent aux honneurs, car ayant sauvé Alcibiade, ayant résisté à un poste difficile où on l'avait placé, lorsqu'on veut récompenser, non, récompense-tu Alcibiade, Alors, ça fait partie de ce personnage qui est à la fois inflexible, il peut boire comme un trou, et il n'est jamais ivre. Dans la bataille, il peut s'employer, être de toutes les entreprises, de tous les combats, et cependant être jamais fatigué. Ça fait partie des paradoxes de Socrate.
Oui, mais alors, pour Socrate par exemple, nul n'est méchant volontairement. En d'autres termes, si on a la connaissance du bien, on ne peut pas commettre le mal. On peut objecter à Socrate que quiconque connaît le bien peut également mal se conduire. Comme dirait Ovide, je vois le bien et je l'approuve, et pourtant c'est le mal que je fais. Oui. De la même façon, un bon médecin, Nicolas Grimaldi, un bon médecin n'est pas juste quelqu'un qui connaît le Vidal par cœur. Un bon médecin, c'est quelqu'un qui administre le bon médicament ou la bonne phrase au bon moment au malade qu'il a sous les yeux, sachant que chaque malade est un cas de figure particulier. Donc, là encore, si la connaissance est nécessaire, elle est quand même dans l'exercice d'une fonction. Elle est quand même consécutive à l'acte, au geste qu'on accomplit.
J'aurais voulu vous résister. Mais ce qui vous donne raison, c'est ce qu'il dit dans le Phèdre. C'est que le bon orateur n'est pas seulement celui qui connaît la vérité du thème dont il va traiter, c'est aussi celui qui connaît la diversité singulière des esprits auxquels il s'adresse et qui adapte ses discours à la capacité de ceux auxquels ils sont adressés. Donc vous avez raison, l'orateur est comme le médecin, c'est-à-dire qu'il doit adapter l'universel au particulier, ce qui anticipe la justice aristotélicienne. Vous avez raison. Et cependant, c'est peu platonicien. Mais vous avez raison.
Donc il y a, chez Platon, la possibilité d'une vertu qui se passe de sa définition, qui existe dans l'acte lui-même. Il y a chez Platon la possibilité d'un courage qui se passe de se connaître.
Mais la phrase d'Ovide, video meliora, probo quae, et deteriora sequor,
je vois le bien, je l'approuve, et pourtant c'est le mal que je suis.
Je suis complètement d'accord, et cependant je fais le contraire. Ce n'est pas platonicien, pourquoi? Du moins c'est ainsi que je le comprends, peut-être que je me trompe. C'est parce que Platon ne distingue pas la vie de la pensée. Je peux voir le bien faire le mal. Non. Je peux voir le juste être injuste. Non. Car si je vois la justice m'absorbe au point de m'imprégner tout entier. Je deviens juste de part en part. Au point de, je deviens incapable d'injustice. Ça, c'est platonicien. Il me semble qu'il n'y a pas chez Platon de distinction, distingue pas deux ordres dont l'un serait l'ordre théorique, l'ordre de la pensée, et l'autre l'ordre pratique, l'ordre de l'action. C'est un seul et même ordre. C'est pourquoi il me semble que l'entreprise dialectique, lorsque, remontant d'une idée à l'idée constituante, à celle qui la fonde, qui la suppose, on remonte ainsi jusqu'au principe de toute chose, jusqu'à l'absolu, ce à quoi tout est relatif et qui n'est relatif à rien, l'âme se construit elle-même. L'âme se fait elle-même, je veux dire, à mesure qu'elle construit ou qu'elle reconstruit la généalogie des idées. L'ordre logique devient un ordre psychologique. Et c'est ça qui est proprement platonicien.
Ce qui veut dire qu'il y a quand même deux façons de ne pas distinguer la vie de la pensée. Une façon consiste à indexer la vie sur la pensée en disant que la véritable vie, c'est la pensée. Et une autre façon consiste à faire surgir la pensée des expériences vitales qu'on peut parcourir. À tel moment, on a rencontré un tel et cette rencontre a valu tel comportement et tel comportement nouveau de considérer que le courage ou la lâcheté, c'est ça. Non?
Oui, bien sûr. Mais, de même que dans le premier Descartes, il n'y a pas de place pour l'expérience. Aristote vous dit, au début d'un traité, arche garto hoti. Le principe, le fondement, c'est le fait. Ce qu'on observe, ce qui est là. Comme dirait un médecin. Ça, c'est anti-platonicien. Le fondement de la logique, c'est l'idée la plus simple, l'idée d'être. Ou l'idée d'un. Parce que tous les nombres, tout nombre est défini par le nombre antérieur plus un. Sauf le premier. Qui n'est relatif à aucun. Donc, la pensée est l'organisation d'une logique. Et c'est la logique qui gouverne le monde. De même que dans le premier Descartes. Il suffit de bien juger pour bien faire. Avec ces différences que, chez Descartes, bien juger intellectuellement pour bien faire techniquement. Mais dans l'ordre moral, dans l'ordre affectif, évidemment, cela ne me dispense pas d'avoir un corps, et par conséquent, cela ne me dispense pas d'avoir des passions. Ce qui fait
mais
que,
en même temps, mon âme bien ce conduite fait, peut régler
voilà,
mes passions.
Ce qui fait que les grandes âmes ont souvent des passions, et même de plus violentes que celles du commun. Mais cela n'est pas platonicien. Socrate n'a pas fait de place, encore que, vous vous rappelez, je crois que c'est dans le livre 4 de la République, pour montrer combien l'âme peut être divisée d'elle-même, il dit... parfois, n'est-ce pas, nous faisons des actions que nous réprouvons. Je vois le bien, je fais le contraire. Et un exemple, il dit, par exemple, c'est des cadavres, sont horribles, c'est ignominieux. Je me dis, il faut fuir cela. Et malgré moi, je ne peux pas résister à aller regarder ces ignominies. Ce qui prouve, c'est qu'il prouve qu'il y a une partie de l'âme qui est divisée de l'autre. Dans cette occurrence, Socrate décrit une expérience peu platonicienne.
Alors, très rapidement, il y a deux petites choses. D'abord, je voudrais qu'on revienne sur la question de la réminiscence un instant. Puisque, pour Platon, savoir consiste à se ressouvenir. Ce qu'on sait correspond à une connaissance antécédente qui, à la faveur de ce qu'on rencontre, ressurgit, s'incarne. En d'autres termes, ce qu'on connaît, on le découvre au sens où il était déjà là et on soulève le voile qui nous en séparait. De la même façon que c'était un voile qui nous séparait de nous-mêmes, et on renoue avec ce qui, de nous-mêmes, connaissait cette chose-là. Donc, savoir, c'est se ressouvenir. À l'appui de la théorie de la réminiscence, on peut dire, combien de fois dans une journée voyons-nous quelque chose pour la première fois? Jamais. On reconnaît toujours ce qu'on voit, la plupart du temps. C'est rarissime de voir, imaginer une couleur qu'on n'a jamais vue, par exemple, ou quelque chose qu'on n'aurait jamais vu, c'est très rare. Donc on pourrait, à l'appui de la réminiscence, poser ça. Et en même temps, est-ce que ça n'est pas une philosophie dont le but est de conjurer ce que le monde peut avoir de nouveau ou d'inédit?
C'est vrai. C'est vrai que la réminiscence fait du passé une promesse. Mais peut-être faudrait-il, si nous en restons au niveau du mythe, et nous avons eu une existence antérieure, puis, ou bien, le choc de la chute nous a rendus amnésiques, ça c'est dans le Phèdre, soit comme dans le mythe d'Air à la fin de la République, les âmes sont réunies au bord d'un fleuve, c'est le fleuve du Léthé.
Oui, l'oubli.
Le fleuve de l'oubli. Alors c'est toujours pareil, l'âme intempérante va boire goulûment et se rendre par conséquent le plus oublieuse. L'âme tempérante boit juste ce qu'il faut, se tremper le lait, juste de quoi se rafraîchir, et elle sera réminiscente.
Elle aura les moyens de se souvenir.
Donc, de quelque mythe qu'il s'agisse, l'âme est toujours d'autant une âme, et d'autant plus capable de vérité qu'elle est plus capable de réminiscence, et elle est d'autant plus capable de réminiscence qu'elle fut plus tempérante. Alors, au niveau du mythe, on pourrait dire, en effet, ce que nous espérons de l'avenir, c'est ce que nous avons connu dans le passé. Et par conséquent, il faut courir en reculons. Cependant, une attention un peu plus soutenue à ce dont il s'agit nous fait comprendre la différence qu'il y a entre la réminiscence et le souvenir. Car le souvenir me rappelle ce qui est passé et ne reviendra plus. Ce qui fait que le souvenir justifie la nostalgie et le regret.
Alors que la réminiscence, c'est le souvenir de ce qui ne passe pas.
Voilà, c'est pour cela. Et c'est pourquoi elle justifie autant d'espérance que l'autre justifie le regret. Parce que ça ne passe pas, je pourrais le retrouver.
C'est ce qui vous fait dire que le passé est une promesse.
C'est cela.
Donc, futurition du passé.
C'est un faux passé.
C'est un faux passé, voilà. Puisque c'est un passé qui ne passe pas. Puisque c'est une connaissance qui n'a pas besoin qu'on s'en souvienne pour être vrai.
C'est cela. C'est tout à fait cela.
Mais alors, est-ce que l'impression qu'on a de comprendre quelque chose ou de découvrir quelque chose en regardant le monde tout simplement ou en comprenant, enfin bref, en apprenant, l'impression qu'on a de se ressouvenir à la façon dont l'esclave dans le Ménon, à qui Socrate demande juste de parler le grec, comprend des principes de géométrie qu'il croyait ne pas connaître. Mais en vérité, il les découvre par lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il les avait en lui. Vous parliez du passé comme d'une promesse. Est-ce qu'on pourrait traiter la réminiscence finalement comme un, j'allais dire presque comme un déjà-vu, ou comme un rêve, finalement ? C'est-à-dire quand on s'éveille d'un rêve, si familier que le rêve nous ait été pendant le sommeil, si familier que les personnages nous aient été, il arrive souvent qu'en se réveillant, ce rêve devienne tout d'un coup absolument étranger et qu'on ne garde du rêve qu'un parfum, qu'un soupçon. C'est ce que Mallarmé dit en parlant de la cueillaison d'un rêve au cœur qui l'accueillit. Bref, du rêve, il reste le souvenir d'avoir rêvé et finalement pas grand-chose. Et puis, il arrive que dans la vie, nous vivions quelque chose avec le sentiment de l'avoir déjà vécu. Comme si, à ce moment-là, le rêve, cette espèce de souvenir en souffrance, enfoui quelque part dans notre mémoire, trouvait à s'incarner dans la réalité elle-même. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que, finalement, par la théorie de la réminiscence, et je le dis parce que c'est vous qui le dites, est-ce que la théorie de la réminiscence ne fait pas de Socrate un poète ?
Je trouve magnifique tout ce que vous venez de dire.
C'est vous qui le dites.
Non. Alors quand vous dites, est-ce que ça ne fait pas de Socrate un poète ? Évidemment que oui. Rappelez-vous le début du Phédon. Le début. Dans quelques...
Donc le Phédon qui est le dialogue dans lequel Socrate
meurt. De la mort
meurt.
De Socrate. À la fin, il rapporte la mort de Socrate. Dans quelques instants, Socrate aura bu la ciguë, sera mort. Ses amis entrent dans son cachot et le trouvent en train de composer une poésie. Mais comment? Tu n'as rien de mieux à faire. Dans quelques instants, tu seras parti. Tu vas bien. Et il dit, bien, le dieu m'est apparu. Il m'a dit, O Socrates, musiken poiei kai ergatsu. Socrate, fais de la poésie et à l'œuvre immédiatement. Musiken ne doit pas être entendu comme musique, mais comme la discipline des muses, c'est-à-dire les arts. Et d'autre part, dans le Phédon, je me rappelle même la référence dans 61A.